L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans L'EM, votre quotidienne sur Transistor. Nous sommes en direct de midi et jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Aujourd'hui, je vous propose une émission un petit peu particulière. On va partir au Maroc du côté d'Agadir. Non, pas pour vous vendre un voyage all inclusive avec piscine géante et cocotiers à prix défiant toute concurrence, mais plutôt pour un voyage dans le monde réel, le monde associatif et le monde des travailleuses et travailleurs sociaux marocains. Et c'est l'ITES, l'Institut de formation au travail éducatif et social de Guy Pava, qui est venu nous parler de ce projet et de bien belles rencontres aussi. Alors j'ai un petit peu de monde avec moi au plateau aujourd'hui. Alors Bleuhen Labbé, vous êtes formatrice à l'ITES, vous êtes psychologue clinicienne et éducatrice de jeunes enfants. Bonjour Bleuhen.
Bonjour, merci pour votre accueil.
De rien. Jules Rouchon, vous êtes étudiant en deuxième année de formation d'éducateur jeunes enfants. Bonjour Jules.
Bonjour, merci.
Et enfin, Faustine Carmarec, vous êtes étudiante en formation éducatrice spécialisée de deuxième année, sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu. Bonjour Faustine.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Bon, comment ça va?
Très bien, merci. On est très content d'être là.
Alors, c'est quoi l'ITES?
Alors l'ITES, c'est un institut de formation au travail éducatif et social et comme vous l'avez dit, c'est situé à Guy Pava. Et c'est des formations pour se former au travail social, par exemple éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de services sociaux. Et vous avez aussi la possibilité de vous former quand vous êtes déjà professionnel, par exemple sur de la formation continue, donc des éducateurs spécialisés qui travailleraient et qui voudraient aller faire des courtes formations.
Donc vous avez monté un projet au Maroc.
Oui.
C'est quoi ce projet ?
Donc c'est à l'initiative de deux formatrices, Justine Lerouzic et moi-même. Et on a voulu en fait faire découvrir une mobilité internationale à l'étranger aux étudiants. Et donc l'idée c'était de partir à Agadir, puisque j'ai moi-même vécu à Agadir pendant 3 mois, et de pouvoir leur faire découvrir les associations locales en lien avec la protection de l'enfance.
D'accord, donc c'est un peu grâce à vous que vous avez pu avoir un contact avec le Maroc ?
Je pense que c'est grâce aussi à l'implication collective aussi des étudiants qui se sont beaucoup mobilisés, notamment à travers des projets d'autofinancement. On a eu des aides financières de la mairie, de la région, mais les étudiants se sont beaucoup mobilisés. Ils ont notamment monté des soirées comme les soirées drag show. On remercie la compagnie, mais ils ont participé à d'autres projets et ça a été très important pour la réalisation.
C'était le Gloriole.
C'est ça.
Hein. Je me souviens bien. Ouais.
Et la Rasquette aussi.
Et la Rasquette, ouais. Alors pourquoi le Maroc ?
Alors le Maroc, ça a été décidé justement avec les liens qui étaient déjà établis, parce qu'aussi on a un contact sur place qui s'appelle Cécile Potier et qui est membre d'une association qui s'appelle Rotoi, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Et Rotoi, c'est une association pour les enfants en situation de rue. Et donc elle a permis aussi de créer un programme pour visiter différentes assos. Donc on a pu visiter 9 structures sur place, liées à la protection de l'enfance surtout. Et donc voilà, c'était un projet commun entre ces différentes associations et l'ITES.
C'était quoi les objectifs ?
Donc l'objectif, c'était d'abord de créer un partenariat avec l'université Ibn Zohr et le laboratoire de sociologie sur place. Et puis on a aussi créé 2 autres partenariats avec l'association Rotoi, dont je viens de parler, et une autre association qui s'appelle Alan et qui est basée à Taroudan. Et c'est une association qui organise des séjours de rupture pour des adolescents français au Maroc.
C'est le labo qui vous a aidé à choisir les structures ?
Le labo de l'université ?
Ouais.
Non, pas du tout. Par contre, c'est plutôt l'association Rotoi qui nous a aidés à visiter les structures.
Et vous êtes sur ce projet depuis combien de temps ?
Alors, on a proposé le projet à notre direction en mai et on a proposé ensuite en juin à l'ensemble des étudiants, donc en amphithéâtre, à peu près 90 étudiants. Et vous imaginez bien que ça a été une réponse plutôt positive des étudiants. Et finalement, on est parti à 23 étudiants, les 23 étudiants les plus mobilisés dans le projet.
Donc c'était en mai-juin l'année dernière. Hein.
C'est ça.
C'est ça, ok. Alors vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler des jeunes en situation de rue, comment ils sont accompagnés par les associations. On va parler aussi des travailleurs sociaux, de la protection de l'enfance, évidemment, si on a le temps. Ce qui me paraît important, et j'en ai un petit peu parlé avec humour dans l'introduction, qu'on est très très loin de la carte postale, on va quand même s'écouter un petit morceau de musique que vous avez capturé sur place, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Oh, Mali, Mali.
لي مالي واش جرالي يا غالي ومالي مالي مالي واش جرالي يا غالي مشيت وهزرتي البوان وانا عقلي دار واش نعمل ليلي ومشيت وهزرتي البوان وانا عقلي دار واش نعمل ليلي ومالي مالي مالي واش جراني يا غالي ومالي مالي مالي واش جراني.
Bon, alors ça sourit beaucoup, hein, ça danse presque sur le plateau, je vous le cache pas. Il y a Jules et puis Faustine qui font beaucoup de sourires. Alors Jules, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
C'est d'un chant de personnes qui accompagnent ces personnes à la rue, donc de l'association Rotois. Et donc on a fait une journée à la plage avec ces personnes-là et c'est un chant de personnes qui accompagnent.
Il y a eu beaucoup de moments comme ça pendant le voyage ?
Ça a été très riche en fait de moments d'échanges de ce type-là, notamment autour de la musique. Il y avait une grande convivialité et une belle hospitalité de la part des travailleurs sociaux là-bas. Enfin, et puis même des enfants. En fait, il y a eu aussi un fort attachement entre nous et les enfants. Et les moments musicaux comme ça, parce qu'il y en a eu plein d'autres, ont été riches de partage. Enfin. En fait, on sourit parce que c'est aussi, on se remet dans la scène et c'est un souvenir très agréable.
Ouais, on écoutera tout à l'heure un autre morceau de l'association Routois, pas Coutois, voilà, que je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu dans l'environnement dans lequel vous avez travaillé, parce que ça, c'est assez important. Alors, je sais pas qui, peut-être, oui, toi, tiens, Faustine.
Alors, on est arrivé à Agadir. Du coup, on a parcouru plusieurs associations en dehors de la ville et dans la ville même. On a été, marqué par cette, je pense, moi personnellement, par cette pauvreté dans la rue, notamment ces enfants qui errent dans la rue, qui sont abandonnés. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi conséquent, enfin, qui mendie. Puis aussi en termes de déchets. En termes de gestion de déchets, c'est vrai que c'était assez pollué. Mais sinon, je ne sais pas si vous avez des choses.
Il y avait une proportion entre adultes et enfants qui était assez, assez différente. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants par rapport aux adultes, plus d'adultes ?
Je pense qu'il marque beaucoup aussi, c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est ce côté très touristique d'Agadir, où à la marina, il y a énormément de grands hôtels. Et à côté de ça, quand vous vous éloignez un petit peu de la marina, c'est des enfants, des adultes qui mendient et qui sont en situation de rue. Et puis on les retrouve en fait dans les différentes associations et ils fuient notamment les orphelinats, ils fuient différentes structures qui répondent pas aux besoins de ces enfants. Et donc Rotois, notamment l'association, permet à ces enfants d'avoir un toit. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est l'hospitalité en fait des Marocains qui créent des associations pour aider. Nous, on a beaucoup vu les enfants, mais les adultes aussi, il y a des associations qui existent pour répondre aux besoins de ces adultes-là en situation de rue.
Mais pourquoi ils sont dans la rue, ces enfants ?
Bah, je pense que pour être intervenu à l'orphelinat, c'est des enfants en fait, qui justement sont en difficulté à l'orphelinat. Il y a beaucoup de syndromes d'hospitalisme, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas dans les bras, on ne les porte pas, ils ne sont pas pensés en fait, ces enfants-là, ils ne sont pas soutenus, aimés. Et donc en fait, à un moment donné, ils ne retrouvent pas ce dont ils ont besoin dans l'orphelinat et donc ils préfèrent partir à la rue. Et puis ils tombent dans des réseaux en fait, d'enfants avec les problématiques liées aux drogues, à l'argent et donc les associations essaient de les rescolariser parce que c'est des enfants ensuite qui seront déscolarisés.
Et alors, est-ce que le contexte économique et social du Maroc a un impact sur ces enfants ?
Oui, je pense que là, actuellement, la crise économique a un impact sur les enfants. Je pense que de ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que, en fait, il y a très peu de travailleurs sociaux formés. C'est beaucoup de bénévoles. Et donc, du coup, quand ils viennent dans les associations, ils ont des métiers à côté, ces gens-là. Et donc, c'est du 24-24, en fait. Et donc, cette crise a un impact sur les personnes accompagnées, sur les personnes qui les accompagnent. Par contre, je trouve qu'à Agadir, il y a aussi tout cet aspect du tourisme qui fait que, en fait, par exemple, on a rencontré monsieur qui était un touriste allemand et qui était tombé par hasard sur une association et qui a fait un don en fait à l'association. Donc je pense que le tourisme fait vivre aussi les associations locales
Par les dons, quoi. Et les voisins aussi, enfin, l'entourage, les quartiers environnants, enfin les habitants. Par exemple, fournissent la nourriture. Il y a vraiment un esprit d'entraide,
de solidarité
qui est très présent.
D'accord. Alors, on l'avait dit en introduction, vous êtes psychologue, hein, Bleuhen. C'est quoi l'impact quand on est enfant de vivre dans la rue ?
Moi, je suis psychologue, je suis formée au transculturel, donc notamment à l'importance de se décentrer de ses propres représentations pour aller à la rencontre de l'autre. Et donc, on a, je pense, beaucoup de représentations sur les enfants en situation de rue. Et puis on s'imaginait justement cette mendicité, on s'imaginait des enfants isolés. Finalement, en fait, c'est des groupes d'enfants, donc ils ne sont pas isolés, c'est-à-dire qu'il y a un lien social quand même entre ces enfants. Et puis, il y a forcément un lien psychologique, c'est-à-dire au niveau des figures d'attachement. C'est des enfants qui sont seuls, donc ils n'ont pas d'attachement, ils n'ont pas de parents. Par contre, en fait, les personnes de l'association, les bénévoles, font figure d'attachement. Et on voit cet attachement très fort envers notamment le directeur de Rotoy, envers les bénévoles. On parlait tout à l'heure aussi des temps de musique. Ils sont en recherche de ça. Donc il y a une précarité, je pense, liée aussi au fait qu'il y a un isolement social et il y a un isolement scolaire, parce que c'est des enfants qui ne vont plus à l'école. Mais voilà, en fait, l'impact le plus important, c'est l'impact psychologique et social, en tout cas, sur ces enfants.
Ils vivent de quoi, ces enfants, en fait, quand ils sont tout seuls, sans être épaulés par une association ?
Par exemple, on les voit dans la rue à demander de, par exemple, cirer les chaussures. Ils vont gagner quelques petites pièces comme ça. On les voit mendier sur le long de la plage. Ils peuvent faire aussi des spectacles de cirque auprès des touristes. Et puis après, ils vivent aussi malheureusement de vente de drogue, de colle, et tombent aussi en fait là-dedans, dans ces addictions-là.
Jules, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous imaginiez avant de partir et ce que vous avez vu ?
Je dirais que je ne m'attendais pas à autant de... j'emploierais le mot la paire est dense, où les personnes qui sont qu'on crée un ancrage, on va dire un repère avec l'association, par exemple, Rotoy, et les personnes qui sont malheureusement encore à la rue, parce qu'ils sont sous prise de drogue ou ces choses-là. J'ai vu beaucoup d'entraide, en fait, entre ces jeunes de rue-là. Et c'était assez intéressant à voir. Et d'autres, pour revenir aussi, d'autres qui étaient juste de passage, qui savent qu'il y a ce repère-là, cet environnement-là, et qui sont juste de passage pour dynamiser un peu la misère dans laquelle ils sont, ces choses-là. Donc ils ont la possibilité, mais voilà.
Et comment c'est perçu par la population marocaine, ces enfants qui traînent et qui vivent dans les rues ?
Justement, on a visité une association, c'était un centre qui était très récent dans un quartier plutôt résidentiel, et il y a eu un sitting en fait à l'ouverture de cette association-là, parce que ça plaisait pas en fait aux locaux. Mais je pense que c'est aussi des choses qu'on retrouve en France, en fait, quand il y a des associations qui ouvrent, ça plaît pas non plus forcément aux personnes résidentes. Et en fait, en expliquant leur programme, en expliquant le fait que il y avait l'idée de scolariser ces enfants, de les accompagner, les résidents en fait du quartier sont vachement pris d'attachement aussi pour les enfants et les ont accompagnés. Et notamment, ça m'a beaucoup marqué parce qu'ils ont fait un projet autour de l'art, de tableaux, et les voisins en fait ont participé à ça. Et autour du Ramadan, justement, en fait, c'est un temps très convivial où ils peuvent partager avec les voisins. Et donc on voit aussi que les représentations évoluent en fonction de la rencontre avec ces enfants-là qui sont très attachants en fait.
Et alors, est-ce qu'il y a des choses autres que par le système associatif qui est fait pour eux ? Je pense notamment au gouvernement.
Ouais, il y a un centre qui existe qui s'appelle la sauvegarde de l'enfance. Nous, on a visité ce centre-là. Peut-être qu'on a moins eu accès à l'informel, c'est-à-dire que la visite était très formelle. C'était vraiment peut-être une vitrine aussi de ce qu'on pouvait voir, de ce que le gouvernement fait. Donc, on n'a pas eu accès aux enfants. Donc, c'est assez difficile de faire un retour sur cette visite. Mais oui, en effet, il y a des choses qui sont mises en place. Je sais que, par exemple, l'association Rotoy est financée par la ville d'Agadir. Donc, il y a quand même des financements de la part du gouvernement, de la royauté, parce que c'est une nécessité en fait de ne pas laisser ses enfants à la rue.
C'est quoi les défis spécifiques alors de ces associations ? Est-ce que c'est difficile par exemple de les sortir de la rue ?
Alors il y a eu des situations en tout cas des retours qu'on avait des des bénévoles ou des professionnels de ces associations nous disaient que c'est possible. En fait, certains enfants s'en sortent, même vont jusqu'à des études assez... comment dire ça,
supérieures.
Ouais. Supérieures, oui. Donc, c'est possible. Après, c'est vrai qu'on n'a pas...
En fait, ce qui est assez compliqué, ce qu'ils nous disaient, c'est que, par exemple, quand on a passé la journée là-bas, il y avait des plus grands, donc des adolescents qui venaient et qui étaient drogués, en fait. Et en fait, ils ont mis en place, les bénévoles, un équilibre dans cette association-là où la drogue, en fait, vous n'avez pas droit de rentrer. Si vous êtes drogué, vous n'avez pas droit de dormir là. Et en fait, c'est très difficile pour les bénévoles de dire à des adolescents, vous ne rentrez pas dans l'association. Et en fait, nous, on a eu du mal à comprendre ça aussi. C'est pourquoi on n'accompagne pas les jeunes qui sont drogués, parce que c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui sont drogués. En fait, ça bouleverse aussi l'équilibre de ces jeunes qui, eux, ont arrêté la drogue. Et donc, de mélanger ces deux populations qui ont arrêté la drogue et qui se droguent, c'est assez compliqué dans les associations.
On sait quel genre de drogue ?
C'est de l'alcool, souvent.
Alors, souvent, du coup, c'est une substance qui est inhalée à partir d'un, via un chiffon. Donc, on voit souvent des jeunes, voilà, qui cachaient un chiffon derrière leur dos, qui restaient devant l'association. Et il ne fallait pas qu'on s'approche de très près, parce que ça pouvait nous impacter, nous aussi.
À ce point-là ?
Oui.
En fait, c'est comme un alcool fort que vous sniffez, en fait. Et du coup, quand vous êtes à proximité, c'est vrai que vous avez un peu, si vous passez vraiment beaucoup de temps avec le jeune, ça fait un peu la tête qui tourne, un effet d'euphorie aussi, quoi.
C'est un petit peu comme quand on... Ouais, avec de l'éther, par exemple.
C'est ça.
Ce genre de choses, ouais.
Il me semble que c'était ça, mais ça reflète aussi un peu quand on sent l'essence, par exemple. Ça sent quand même assez fort, mais là, c'était à peu près pareil. Donc,
mais certains, ils arrivaient à laisser le chiffon de côté, en fait, le laisser au pied de la porte, le temps d'une activité à l'intérieur de la structure.
Alors, j'imagine que ces jeunes, ils ont aussi d'autres problèmes, par exemple la malnutrition. Je pensais aussi aux maladies transmissibles. Comment c'est géré tout ça ?
Concernant d'abord la malnutrition, il y a énormément de soutien de la part des associations. Nous, par exemple, on a mangé là-bas le vendredi. Le vendredi, c'est le repas, en fait, sain, un peu, là-bas. Donc, on a partagé un couscous et tous les enfants des rues peuvent venir partager ce couscous. Et on voit que c'est vraiment un temps convivial où les jeunes laissent leur chiffon, justement. Et puis donc, il y avait cet aspect de la malnutrition. Et il y avait une seconde question que vous avez posée.
Les maladies.
La maladie.
Ouais, la santé, comment on
c'est
gère.
C'est assez tabou, en fait. C'est assez tabou de parler. Le VIH est assez répandu. Je parle notamment des enfants que j'ai rencontrés à l'orphelinat, avec le sida qui se transmet notamment dès la maternité. Et donc, c'est assez tabou, en fait, comme maladie. Bon, on voit déjà en France que c'est encore un peu tabou. Et donc, dans certaines sociétés, ça le reste aussi.
Ouais, alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée, qui était vraiment la numéro 1, mais juste parce qu'elle n'est pas en gras. C'est justement, qui sont ces enfants ? Si vous me parlez de VIH, j'imagine qu'ils sont déjà ados plus. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi la...
En fait, on peut avoir le VIH de naissance. C'est-à-dire que, par exemple, si la mère avait le syndrome du VIH et qu'il y a eu par exemple une coupure ou à travers le sang, et ben vous pouvez avoir le VIH dès la naissance.
Et oui. Et donc ces enfants, alors c'est quoi la tranche d'âge à peu près ?
En situation de rue, vous dites ?
Ouais.
Il y a de tous les âges.
Ouais. Il y a des très jeunes, à partir de 5 ans, vraiment, et jusqu'à 22.
Plus de 20 ans même, ouais, c'est ça.
Est-ce que c'est difficile à repérer justement ces enfants qui sont tout petits, qui ont entre 5, 6 ou 7 ans ? Pas les associations, est-ce que c'est parce qu'ils vont pas y aller d'eux-mêmes ?
Non, ils font des maraudes. Certaines associations font des maraudes justement pour aller chercher les jeunes.
Vous avez assisté à des maraudes ?
On n'a pas pu.
On n'a pas pu, non.
Cette année, il n'y avait pas de maraudes parce que justement, c'est des endroits où il y a beaucoup de violence et qu'il faut être préparé en tant que bénévole. Et comme on a dit, ce n'est pas des travailleurs sociaux qui sont formés. Et donc récemment, il y a eu un jeune qui s'est immolé devant l'association pendant une maraude. Donc ils ont décidé de suspendre du temps d'accompagner, en fait, les bénévoles face à cette épreuve-là. Et puis en fait, les maraudes, sinon, ça ressemble à une distribution de soupe, un peu comme fait l'association des petites graines du social de l'ITES, distribue aussi de la nourriture dans les rues de Brest. Et donc en fait, c'est des distributions de soupe, mais surtout, en fait, au-delà de l'alimentaire, c'est le fait de garder un lien social avec les enfants.
Alors, on n'aura vraiment pas le temps de parler de tout l'accompagnement, ça c'était un petit peu prévisible. Alors finalement, ce projet, vous en êtes où ? Il est terminé ou pas ? Vous avez encore des choses à faire.
Et bah justement, il va se poursuivre. On a établi déjà en amont, mais là, ça se concrétise de plus en plus, une retranscription de ce voyage, donc à une conférence qui a lieu la semaine prochaine, le 11 avril, à notre école directement à Guipava, à l'ITES. une conférence de 2 heures où on partagera sur diverses thématiques comme on l'a fait aujourd'hui. Et pour voilà, retranscrire notre expérience aussi, nous en tant qu'étudiants et aussi en tant que formatrice. Mais... Donc voilà.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté alors à vous ? Qu'est-ce que dans vos perspectives professionnelles, qu'est-ce que ça va changer ?
Ça permet de se décentrer de ce qu'on connaît. Déjà, nous sommes qu'étudiants, en fait. Nous faisons quelques périodes de stage au cours de notre formation et nous apprenons à comprendre les systèmes d'intervention dans le domaine du social en France. Nous sommes dans cette compréhension-là déjà. Mais le fait d'avoir un autre regard, d'être parti, nous permet de prendre du recul par rapport à OK, ce qui ne va pas ici, mais ce qui va aussi, ce qui va bien, et ce qu'il faut qu'on encourage à aller mieux. Parce que c'est vrai qu'on a été là-bas bousculé dans ce qui était précaire, dans ce manque de moyens, mais encore ils font ce qu'ils peuvent. C'est vrai qu'ils ont appuyé sur le fait que le Maroc avait quand même évolué petit à petit, mais nous, ça nous apporte quelque chose en plus, je pense, dans nos parcours. Et le souvenir de ces enfants-là aussi.
On ne peut vraiment pas comparer le système français avec le système marocain. C'est quoi les points communs et vraiment les grosses différences ? Et qu'est-ce qu'ils ont de très fort chez eux qu'on a de très faible chez nous ?
Ce qu'il y a de très fort, moi, je trouve, c'est l'engagement. Peut-être que nous, on a perdu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, ici, c'est du travail, c'est du travail social. Là-bas, c'est du bénévolat. Et donc, c'est un engagement quotidien. En fait, ils ne comptent pas les heures, quoi. Et en effet, c'est une nécessité aussi de compter nos heures, nous, ici, pour pas déborder, on le sait. Mais là-bas, en fait, vraiment, c'est un engagement individuel, personnel et du militantisme, presque.
D'accord. Non, je regarde Faustine qui se frotte les yeux, je me suis dit, on va aborder un sujet un peu sensible.
Non, c'est vrai.
Non, alors oui, donc par exemple, vous, ça va vous apporter quoi ? Jules, qu'est-ce que vous avez vu là-bas que vous comptez appliquer plus tard, quand vous serez...
Moi, j'ai toujours vu que c'est en voyageant où on fait attention un peu à son environnement, aux petites choses, et surtout, ce que je retiendrai, c'est la rencontre à l'autre, qui s'est fait beaucoup là-bas. Et que j'ai toujours prêté mon attention à ça. Donc c'était une nouvelle culture, un public qu'on n'a pas forcément la possibilité de s'attacher ou de s'intéresser. Et comme l'a dit Bleuhen, nous on a une petite association à notre école, donc les petites graines du social, où on fait des maraudes justement dans les rues de Brest. Et je trouvais ça intéressant de faire un parallèle avec ça, parce qu'en fait, la rencontre à l'autre, ça joint sa posture, ça joint son approche, le langage, ses perceptions, ses cultures. Enfin, ça rejoint vraiment une globalité immense. Et je trouve ça vraiment intéressant de s'arrêter, de s'intéresser à ces personnes-là, parce que ça reste des êtres humains qui ont un parcours en fait différent d'une autre.
Ça me fait penser à une phrase qu'on nous a rapportée. Au Maroc, enfin, qui m'a marqué, moi, c'est je sais plus quelle personne l'avait dit, mais c'est je vois en chaque jeune l'espoir, et cette notion aussi de croire en l'autre était très très forte, très présente. En tout cas, on l'a ressenti comme ça.
Et pour revenir d'ailleurs à l'association Rotois, ils appellent, enfin, les jeunes qui sont à cette association sont pas des personnes accompagnées, mais des partenaires, qu'ils appellent ça. Donc on voit très bien qu'il y a un certain environnement, une certaine entraide et du finalement de l'humain. Enfin, du travail humain, quoi. Donc, c'était une très belle expérience.
Il y a beaucoup plus d'humains là-bas que chez nous, qu'en fait, le point noir un peu chez nous, c'est qu'on est un petit peu trop dans des cases administratives,
Je sais pas si c'est un point noir, je dirais qu'il faut juste attirer son attention sur certaines choses, parce qu'il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses en France, il y a beaucoup d'associations qui se créent, qu'on n'a pas forcément... Pas forcément l'œil sur tout non plus. Mais voilà, certes, il y a des petits points noirs,
On est un peu submergé par le côté administratif.
Oui, voilà.
J'imagine.
Ouais, complètement.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On parlera une prochaine fois justement de ces associations. Et puis encore une autre fois peut-être de la grosse problématique quand on est une femme au Maroc et peut-être aussi l'impact de la religion. Donc c'était 10 thèses de Guy Pava avec Bleuhen, Jules et Faustine. Merci à tous les trois d'avoir participé à l'émission.
Avec plaisir.
Merci.